d'ailleurs pour demain. Et nous, on a le plaisir dans ce cadre d'accueillir Richard Stallman qui va nous parler. Qui va nous parler des objectifs et de la philosophie du mouvement du logiciel libre et du statut et de l'histoire du système d'exploitation GNU, qui, en combinaison avec le noyau Linux, est maintenant utilisé par des dizaines de millions d'utilisateurs à travers le monde.
Nous avons des autocollants gratuits disponibles qui a mon sac. Bon, nous allons distribuer maintenant les autocollants à ceux qui veulent des autocollants. Et donc, c'est trop fort maintenant. Je dois m'éloigner du haut-parleur. Si tu veux faire des photos de moi, prière de ne pas les mettre dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Cette entreprise est un moteur de flicage qui reconnaît les gens dans les photos par leur visage ou par le dos de la tête. Et donc, si tu mets, j'utilise le micro. Moi, j'entends. Je suis trop proche du haut-parleur. Est-ce possible de mettre le haut-parleur là, pas si proche de moi? Mais je ne peux pas quand c'est trop fort pour moi où je suis. J'ajuste ma voix selon ce que j'écoute. mettre la photo avec quelqu'un chez Facebook et d'aider le flicage, contribuer au flicage, il faut ne pas le faire. Pas à personne, mais près de ne pas le faire à moi. Aussi, si tu enregistres cette conférence et tu veux en distribuer des copies, prête de le faire de les distribuer uniquement dans les formats favorables au logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG ou les formats, le format WebM, pas dans les formats MP, quoi que ce soit, surtout pas dans Flash. Flash requiert un programme privateur pour se reproduire et prêt d'assurer que le site de distribution permette le décharge d'une copie sans exécuter du logiciel privateur. Voici le problème de YouTube. Dans les pages de YouTube, il y a un programme privateur sans exécuter lequel on ne peut rien voir. Donc, prêt de ne pas mettre les enregistrements de mes conférences dans YouTube. Et aussi, prêt de mettre la licence Creative Commons non dérivée sur l'enregistrement, sur les copies. Bon, c'est quoi le logiciel libre? C'est le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Je peux l'exprimer en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire les choses que l'État français ne respecte plus. Mais liberté, parce que en utilisant un programme libre, l'utilisateur est libre de faire son informatique comme il veut. Égalité, parce que un programme libre ne fournit aucun pouvoir à personne sur personne. Tous ont les mêmes droits. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs d'un programme libre. Pour chaque programme, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme, où le programme a le contrôle des utilisateurs. Dans le premier cas, c'est du logiciel libre. C'est quoi la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie, des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle du programme pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. Donc, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme respecte leur liberté, donc c'est du logiciel libre. Mais pour que les utilisateurs aient le contrôle du programme, il faut les quatre libertés essentielles qui font la définition concrète, les critères concrets du logiciel libre. La liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 est d'étudier le code source du programme et de le changer pour que ce programme fonctionne comme tu veux et fasse ton activité informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, chaque utilisateur a le contrôle séparé de ce programme. Chacun peut changer ses copies. Je suis libre de changer mes copies et tu es libre de changer tes copies. Mais ça ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer. Eux aussi doivent participer dans l'exercice du contrôle de ce programme. Donc il faut le contrôle collectif. Ça veut dire que c'est la liberté de collaborer avec d'autres utilisateurs en exerçant le contrôle du programme. Et qui collabore? Ceux qui veulent. Si toi et cinq autres veulent collaborer, vous pouvez. Et si tu ne le veux pas, tu n'es pas obligé. Tu collabores avec les autres avec lesquels tu veux collaborer. Le contrôle collectif requiert deux libertés essentielles en plus. La liberté de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3, de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, chacun qui collabore est libre s'il fait une version modifiée d'en faire des copies et de les distribuer aux autres dans ce groupe. Et chacun d'eux peut en faire d'autres copies, davantage, pour les distribuer à d'autres dans le groupe. Et enfin, tous auront des copies de la nouvelle version modifiée. Aussi, ces deux libertés permettent à ceux qui collaborent d'offrir des copies aux autres, même de publier les versions, c'est-à-dire d'offrir des copies au grand public. Si le programme porte ces quatre libertés, les utilisateurs ont le contrôle et c'est un programme libre qui respecte la liberté, la communauté, les droits de l'humain, c'est-à-dire. J'ai décidé de ne plus dire les droits de l'homme, mais plutôt les droits de l'humain, pour ne pas être sexiste. Mais si une de ces libertés manque ou n'est pas suffisante, les utilisateurs n'ont pas vraiment le contrôle de ce programme. C'est plutôt le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme, pas libre, parce qu'il n'est pas libre, est un instrument du pouvoir injuste de son propriétaire sur les utilisateurs. Donc n'importe quel programme pas libre est une injustice et ne devrait pas exister. Nous les appelons privateurs parce qu'ils se distribuent de manière à priver de la liberté à ceux qui les utilisent. Et cette injustice mène à une autre parce que le propriétaire est conscient de son pouvoir sur les utilisateurs et calcule finement jusqu'à quel point il peut maltraiter ses utilisateurs pour gagner plus à leurs dépens. Donc il introduit, et c'est normal, ce n'est pas l'exception, c'est le cas normal, les propriétaires, les développeurs du privateur introduisent des fonctionnalités malveillantes dans leur programme pour maltraiter les utilisateurs, par exemple pour les fliquer. Souvent, les programmes privateurs fliquent leurs utilisateurs. Ils transmettent des données au sujet de ce que fait cet utilisateur au serveur. Par exemple, Windows, Mac OS, les iThings, c'est-à-dire les monstres mobiles d'Apple, fliquent leurs utilisateurs. Flash Player flique l'utilisateur. Le Swindle d'Amazon, ça veut dire l'escroquerie d'Amazon, c'est son lecteur de livres numériques, flique l'utilisateur. Il transmet de temps en temps le titre du livre et le numéro de la page au serveur d'Amazon. Et si l'utilisateur souligne quelque chose ou entre des notes transmises à Amazon, c'est la lecture orwellienne. Et les téléphones portables aussi fliquent parce que si le téléphone contient un GPS, le logiciel transmet la géolocalisation GPS quand le système de téléphonie le demande. Et l'utilisateur n'a pas le pouvoir de le bloquer parce que le logiciel est privateur. L'utilisateur n'en a pas le contrôle. Mais ils vont aussi plus loin. Il y a aussi la fonctionnalité de restreindre l'utilisateur, de bloquer les utilisateurs de faire ce qu'ils voudraient faire. Comme par exemple de partager des copies des œuvres publiées, ce qui devrait être légal. N'importe quelle loi a visé à bloquer les gens de coopérer en partageant des copies, des œuvres publiées, et en soi injuste. Et quoi que soient les mesures draconiennes que ces lois imposent, c'est injuste. Parce que le but aussi est injuste. Il faut mettre fin à la guerre contre le partage. Il faut vaincre les éditeurs qui veulent nous imposer de la technologie traître conçue pour nous restreindre et nous bloquer. Mais beaucoup de programmes privateurs contiennent des menottes numériques pour restreindre l'utilisateur. Quand quelqu'un veut construire un programme pour restreindre ses utilisateurs, ce programme doit être privateur. Si les utilisateurs en ont le contrôle, ils peuvent le changer pour ne plus les restreindre. Voici la liberté. Donc, toujours, les développeurs des menottes numériques choisissent de faire le programme privateur. Et on trouve des fonctionnalités de menottes numériques, le DRM, Digital Restrictions Management en anglais, dans Windows, dans Mac OS, dans les iThings, je suppose aussi dans Android, dans Flash Player, dans le Swindle d'Amazon et beaucoup d'autres programmes. Et tous les services de streaming, de la musique et Netflix et leurs concurrents imposent la DRM et fliquent les utilisateurs. Il faut rejeter ces services injustes. Mais il y a aussi les portes dérobées pour attaquer l'utilisateur. Par exemple, le Swindle d'Amazon contient une porte dérobée pour supprimer à distance les livres. Amazon a le pouvoir de supprimer n'importe quel livre quand il veut. Et nous le savons par l'observation. En 2009, Amazon a supprimé des milliers d'exemplaires d'un livre dans un grand acte orwellien. Et c'était quel livre? C'était 1984 de George Orwell. Il y avait beaucoup de critiques, beaucoup, beaucoup de critiques, parce que c'était trop ironique. Puis Amazon a promis de ne jamais le faire plus, sauf sous ordre de l'État. Si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas très réconfortante. Mais en tout cas, elle n'était non plus une vraie promesse, parce que elle n'avait pas de force légale, donc Amazon est revenu à supprimer à distance des livres arbitrairement, sans même ordre de l'État. Mais il devrait être un délit de fabriquer des produits avec ces fonctionnalités malveillantes, avec le flicage, avec les menottes numériques, avec les portes dérobées. Mais il y a même les portes dérobées universelles qui donnent aux propriétaires le pouvoir total sur l'utilisateur. Il a même, parce que par la porte dérobée universelle, il peut imposer des changements de logiciel, n'importe quel changement. Donc il peut faire n'importe quoi aux pauvres utilisateurs. Et nous avons beaucoup plus d'exemples. J'ai déjà démontré que la grande majorité des utilisateurs du privateur sont les victimes des fonctionnalités malveillantes, c'est-à-dire ils utilisent un programme connu qui est du maliciel. Les programmes que je viens de citer sont du maliciel privateur. Windows est du maliciel, macOS, le logiciel des iThings sont du maliciel. Le logiciel de Swindle d'Amazon, qui contient aussi une porte dérobée universelle, est du maliciel. Et presque tous les téléphones portables contiennent des programmes du maliciel parce qu'ils ont aussi une porte dérobée universelle que les États et des autres aussi emploient pour les convertir en dispositifs d'écoute. Si tu as un téléphone portable, il peut être en train de t'écouter maintenant. Et il peut écouter toute la conversation dans la chambre, tout le temps, même s'il paraît éteint. Parce que quand ils changent le logiciel comme si, un des changements qu'ils font est que quand quelqu'un essaie d'éteindre le téléphone, il fait semblant de s'éteindre, tandis qu'il continue de fonctionner, écouter et transmettre. J'appelle les téléphones portables la rêve de Staline et je refuse de les porter. Je n'ai jamais eu de téléphone portable et je ne l'aurai jamais. Tant qu'il reste aussi injuste, il faut les refuser. C'est mon devoir de citoyen. Je vois qu'un téléphone portable serait très commode. Mais je reconnais mon devoir de résister le flicage. Et je résiste. Mais en tout cas, nous avons beaucoup d'autres exemples de maliciels privateurs. Regardez gnu.org/proprietary pour beaucoup de listes. Et chaque exemple avec une référence à la presse pour le prouver. Mais chez le logiciel libre, les utilisateurs ont une défense. Ils ont le contrôle de ce programme. S'ils savent qu'un programme libre contient des fonctionnalités malveillantes, ils ont le pouvoir de les enlever, de les supprimer du code. Et ils le font. Et donc, même si tu ne sais pas programmer, les utilisateurs qui savent programmer te protègent. Ils protègent tout le monde parce qu'ils veulent se protéger. Et en se protégeant, ils protègent aussi les autres. Toute la communauté d'utilisateurs de ce programme sont à l'abri du fait que les utilisateurs ont le contrôle du programme. Les développeurs du privateur, les propriétaires, peuvent mettre des fonctionnalités malveillantes sans entrave, parce qu'ils ont le contrôle du programme. Chez le logiciel libre, nous avons une défense. Elle n'est pas parfaite, mais c'est la seule défense connue contre le malicieux. Donc, toute sécurité informatique commence avec le logiciel libre. Un programme privateur fournit sécurité zéro envers son propriétaire. Quand les experts parlent de la sécurité informatique, ils ferment un œil. Ils ne font pas attention à la sécurité contre le propriétaire, seulement à la sécurité contre les tiers. C'est vrai, un programme privateur peut offrir plus ou moins de sécurité contre les tiers, mais contre le propriétaire, c'est zéro. Toujours zéro. Pour avoir de la sécurité contre le propriétaire, il faut qu'il n'y ait pas de propriétaire. Un programme libre a des contributeurs, mais pas vraiment de propriétaire, parce que personne n'a le seul contrôle de ce programme. Donc, il faut lutter pour éliminer le logiciel privateur d'abord de nos vies, enfin du monde. Et par notre travail, nous avons développé un système d'exploitation libre et des milliers d'applications libres. Il est maintenant possible de faire de l'informatique sans logiciel privateur. Dans mon ordinateur, dans cet ordinateur-ci, tout le logiciel est libre. Même le logiciel de lancement est libre. Je me suis échappé du privateur. C'est le premier but. Mais enfin, il faut mettre fin au logiciel privateur pour libérer les autres. Parce que tout programme privateur est un système de pouvoir injuste. Le système que nous avons développé, que j'ai lancé en 84, s'appelle GNU, G-N-U, en anglais GNU. Le nom est une blague, parce que j'adore les jeux de mots. GNU signifie GNU's not Unix, ou en français, GNU n'est pas Unix. Parce que c'est un système techniquement compatible avec le système privateur Unix. Mais la différence, c'est que GNU est libre. 100% du logiciel libre. Mais aujourd'hui, GNU s'utilise avec un autre composant qui s'appelle Linux. Si quelqu'un dit qu'il utilise Linux, il a mal compris. Ce n'est pas Linux qu'il utilise, c'est GNU. Linux est un composant essentiel, c'est le noyau. Mais le noyau n'est pas censé fonctionner seul. Ce n'est pas le but du noyau. Le but du noyau, c'est de fournir les ressources de la machine aux autres programmes. Donc, le système entier est GNU et Linux est un composant qui fonctionne avec GNU. Donc, c'est la combinaison GNU et Linux. Et prêt de le dire comme ça, prêt de reconnaître notre travail. Beaucoup utilisent le système GNU avec le noyau Linux et ils disent qu'ils utilisent Linux, c'est de ne pas reconnaître notre travail, c'est d'attribuer notre travail à un autre qui a contribué. C'est vrai, mais si tu dis GNU et Linux, ça reconnaît son travail et le nôtre. Prêt de nous donner à la reconnaissance égale. Mais c'est encore plus important de le faire parce que lui, M. Torvalds, le développeur de Linux, n'appuie pas le mouvement logiciel libre. Il n'est pas d'accord avec la philosophie que je viens de présenter. Si tu dis Linux, tu appuies sa posture politique. Il appuie le open source. Open source est le slogan, le drapeau, on peut dire, d'une réaction de la droite contre le mouvement logiciel libre. Un essai de séparer notre travail pratique de notre philosophie des droits de l'humain et donc de pouvoir distribuer, promouvoir des programmes libres sans dire libre, sans reconnaître que c'est une question de justice ou injustice. Ceux qui appuient open source présentent la question en termes uniquement pratiques, rien de plus profond. Et voici leur but, de ne pas critiquer un modèle commun de négoce. Ça serait trop radical pour eux, mais pour nous, c'est le centre de tout. Donc, vous avez le droit d'appuyer votre posture, quoi que ce soit, au moins dans cette question, pas dans d'autres questions en France. Il y a beaucoup de censure en France, c'est vraiment triste. Mais pas encore dans cette question-ci. Si tu es en faveur de l'open source, tu as le droit de le dire. Si tu es en faveur du logiciel libre, tu as le droit de le dire. Mais si tu es en faveur du logiciel libre et des droits de l'humain dans l'informatique, pourquoi dire open source? Ce serait d'appuyer la philosophie que tu n'appuies pas. Mais beaucoup le font parce qu'ils ne font pas la différence entre les deux noms. Donc si tu es d'accord que les utilisateurs doivent avoir le contrôle de son informatique, le contrôle des programmes qu'ils utilisent, dit logiciel libre, pas open source, jamais open source. Moi, je n'appuie jamais open source parce que je veux appuyer le plus clairement, le plus nettement possible le logiciel libre. Il n'y a pas de mouvement open source. Le but de l'expression open source était de ne pas être un mouvement, de ne pas lutter, de ne pas reconnaître qu'il y a pourquoi lutter. Il nie l'existence de quelque chose pour laquelle lutter dans ce champ. C'était le but de ne pas être un mouvement. Mais le logiciel libre est un mouvement parce que pour nous, c'est une question de justice ou injustice. C'est une question des droits de l'humain. Si tu es d'accord avec ça, refuse de dire open source. Insiste en dire logiciel libre pour la liberté parce que c'est une question de la liberté. Il y a beaucoup de versions différentes du système GNU et Linux. Ils s'appellent les distributions. Il y a plus de 1000. Et la grande majorité ne sont pas complètement du logiciel libre, mais plutôt elles contiennent des programmes privateurs. Il y a plus ou moins 10 distributions 100% de logiciel libre. Regardez GNU.org/distros pour d'informations davantage sur les distributions, sur lesquelles sont libres, lesquelles pas. Surtout, je vous prie de ne pas promouvoir les distributions très connues mais pas libres, comme par exemple Ubuntu. Ubuntu installe des programmes privateurs et offre d'autres programmes privateurs et flique l'utilisateur. C'est un des peu d'exemples d'un programme libre qui flique l'utilisateur. Un des programmes dans Ubuntu. Mais c'est le programme de recherche de l'escritoire. Donc, presque tout utilisateur d'Ubuntu est amené à utiliser ce programme et à être fliqué. Donc, ce n'est pas bon. Évidemment, les développeurs d'Ubuntu ne disent pas logiciel libre. Ils disent open source pour cacher les questions éthiques, pour amener les gens à juger en termes superficiels, pratiques. Voici l'idée open source. Les écoles doivent enseigner uniquement des logiciels libres. Enseigner l'utilisation d'un programme privateur aux jeunes, c'est comme de leur enseigner à fumer le tabac pour semer de la dépendance, pour implanter de la dépendance dans la société. Les écoles doivent refuser d'implanter de la dépendance envers le propriétaire d'un programme privateur. Donc, les écoles doivent enseigner uniquement du logiciel libre et doivent enseigner pourquoi cette politique. Pourquoi elle n'enseigne que le logiciel libre? Et quand je dis les écoles, ça veut dire depuis le jardin des enfants à l'université. Et aussi l'éducation aux adultes. N'importe quelle activité éducative a la même responsabilité sociale d'enseigner uniquement les programmes justes et de ne pas implanter de la dépendance. Mais aussi, les écoles doivent inculquer l'habitude de coopérer avec les autres pour être bons membres de la société. Donc, chaque classe doit avoir la règle suivante. Les élèves, si tu apportes un programme à la classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois partager ce programme, y compris son code source, avec les autres dans la classe. Parce que cette classe-ci est un lieu pour partager les connaissances. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à cette classe, sauf pour faire de l'ingénierie inverse. C'est-à-dire d'investiguer comment ça fonctionne. Et l'école, pour donner le bon exemple, doit suivre sa propre règle, doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et partager des copies du code source avec tous dans la classe. Enfin, les États doivent utiliser uniquement le logiciel libre. Les agences publiques n'existent pas pour soi-même, mais plutôt pour le peuple. Quand ils font de l'informatique, ils le font pour le peuple, au nom du peuple. Donc, ils ont la responsabilité de maintenir soigneusement leur contrôle complet de leur propre informatique qu'ils font pour le peuple. Mais si l'agence utilise un programme privateur, il cède le contrôle de son informatique au propriétaire de ce programme. Il ne faut pas. La présence d'un programme privateur en utilisation dans une agence publique est injuste. C'est une faute de responsabilité devant le peuple. Il doit être corrigé. Voici un des devoirs de l'État. Et étant vu que tout programme privateur présente sécurité zéro envers son propriétaire, l'utilisation d'un programme privateur dans une agence de fonction critique menace la sécurité nationale. Dans cette question, la France a fait un commencement. Il y a des agences qui ont migré au système GNU et Linux. Pas toujours des bonnes agences. Je ne sais pas si c'est bon que la gendarmerie fonctionne bien, bon ou mauvais. Mais en tout cas, il ne serait pas bon que la gendarmerie soit sous le pouvoir de Microsoft. Je crois qu'il faut réduire le niveau général de flicage dans la société pour la survie de la démocratie. La démocratie signifie que le peuple a le contrôle de l'État. Mais les États ont la tendance d'agir en secret. Et comme ça, comment est-ce que le peuple peut avoir le contrôle de ses actions secrètes? Seulement grâce aux héros, aux lanceurs d'alerte, qui révèlent au public ce que fait vraiment l'État. Mais l'État a la tendance de les appeler des espions et de les mettre en prison si l'État réussit à les identifier. Mais si l'État flique tout, si l'État sait toujours qui va où et qui se communique avec qui, l'État peut toujours identifier les sources des journalistes, ce veut dire les lanceurs d'alerte, pour les mettre en prison. Et il sera si difficile d'être lanceur d'alerte qu'il n'y en aura assez. Il n'y en aura pas assez. Donc, pour la survie de la démocratie, il faut réduire le niveau de flicage général assez que pour que l'État ne puisse plus savoir qui va où ni qui se communique avec qui. Et pour ça, il faut une loi exigeant que les systèmes n'accumulent pas de données personnelles. Quand j'ai vu la première fois les Vélib, je pensais un système de flicage, parce que je comprends ces questions. Mais quelques Français qui connaissaient la question, qui opposent le flicage, m'ont dit que l'agence de contrôle des données personnelles agissait très fort et que les données sur qui prend où un vélo et où il rend le vélo étaient si limitées qu'il n'était pas vraiment du flicage. Et donc j'ai décidé, ils m'ont convaincu. Mais maintenant non plus. Maintenant, la protection des données est éliminée en France. Maintenant, l'État ramasse toutes les données accumulées par n'importe quoi. Voici donc qu'il faut mettre fin à l'accumulation de données. Il faut exiger que tout système soit conçu de manière à ne pas se prêter au flicage. Par exemple, si quelqu'un veut mettre une caméra pour le cas où il y a un crime, il doit être obligé à utiliser une caméra pas branchée au réseau, sans possibilité d'accès sauf sur place. Et cette caméra doit être limitée à enregistrer l'image pour peut-être un mois maximum. Et pour le regarder, il faudra aller sur place et retirer l'enregistrement. quand il y a un crime, ça vaut la peine. Donc, un tel caméra est efficace pour décourager et pour détecter les crimes. Mais ne se prête pas au flicage de tout le monde. Mais quand la caméra est branchée au réseau, quand il est possible de regarder le vidéo depuis ailleurs, ils peuvent le transmettre à un lieu de stockage et stocker tout et reconnaître les visages et suivre tout le monde. Et ça, c'est dangereux. Ils nous imposent maintenant plus de flicage que dans l'ancienne Union soviétique. Et c'est vrai, sauf pour les dissidents et les sources des journalistes, le danger immédiat personnel est très réduit. Mais il y a aussi le danger à la démocratie du flicage général de tout le monde. Donc il faut rejeter leurs arguments basés sur le petit danger, le danger secondaire des terroristes. Il faut te souvenir que les voitures tuent beaucoup plus que les terroristes en France. Que le tabac tue beaucoup plus que les terroristes, que le sucre tue beaucoup plus que les terroristes. Il faut ne pas être distrait par des petits dangers à rendre la liberté. Donc il faut insister sur le point que le danger des terroristes, bien que pas zéro, bien que ça mérite quelque effort, pour éviter le terrorisme, que c'est moins important que la démocratie et les droits de l'humain, qu'il faut ne pas céder les droits de l'humain et la démocratie au nom d'éviter le petit danger. Parce que le danger d'un État pas démocratique est énorme comparé aux terroristes. Il y avait des fois quand les Français sacrifiaient leur vie pour les droits de l'homme. Et maintenant, ils disent, pour protéger quelque peu de Français dans le futur, il faut sacrifier les droits de l'homme. Quelle bêtise! Le 13 novembre, j'étais ici à Paris. J'avais une conférence le lendemain qui était annulée. Il n'y avait pas vraiment besoin de l'annuler, mais elle était annulée. Mais dès que j'ai vu les nouvelles, je pensais à la prochaine victime. La liberté des Français. Et j'étais complètement inquiet de ce grand danger qui menaçait la France. Je restais quelques jours de plus et je suis allé chez moi, mais enfin, quand j'ai lu qu'ils avaient saisi les attentats comme excuse pour annuler la manifestation pour sauver la planète. C'était une horreur pour moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai écrit d'autres paroles pour la Marseillaise que j'ai publiées dans Stallman.org. Vous pouvez le voir dans mon site. J'ai proposé aussi un slogan de manifestation qui n'a pas été utilisé, mais je vous le propose si pour le cas où ce soit utile. Les droits de l'humain, la France, la planète, honte à ceux qui nous arrêtent. Donc maintenant, des questions? Quoi?
Brièvement, il est aussi très important de libérer les circuits intégrés, les microprocesseurs.
Mais c'est... Oui, ça, mais c'est la même chose. Oui, dans n'importe quel ordinateur, le logiciel doit être libre. Mais d'autres questions?
Merci pour vos explications. Moi, je voudrais vous demander... Ouais, quand on n'est pas un expert de tout ça et qu'on tient à sa liberté sur les réseaux informatiques, comment on fait pour notamment passer au logiciel libre?
Pas besoin d'être programmeur. Nous, les programmeurs, avons déjà développé des systèmes, des distributions libres de GNU et Linux. Il y a des experts disposés à aider les utilisateurs. Il y a des groupes d'utilisateurs de GNU et Linux qui font des install parties où ils installent le système dans les ordinateurs des gens. Mais il faut aussi, il faut refuser de participer dans les systèmes de flicage offerts aux gens. Comme par exemple, il faut ne pas être utilisé par Facebook. Facebook n'a pas d'utilisateur, mais plutôt d'utilisé. Mais je ne suis pas utilisé de Facebook. Je refuse. Parce que, et aussi Skype. Skype est un programme privateur, donc injuste, et conçu pour le flicage. Les données passent par un serveur aux États-Unis où les États-Unis fliquent. Donc, il faut refuser d'utiliser Skype. Parce que si tu acceptes, si tu cèdes à la pression d'utiliser Skype, si tes familiers ou tes amis te pressionnent à utiliser Skype, tu peux te dire, je ne l'aime pas, mais je le fais parce que mes amis me pressionnent. Et eux, ils diront, j'utilise Skype, je n'en suis pas content, mais je dois le faire parce que tu me pressionne. C'est-à-dire, si tu cèdes à cette pression, tu deviens l'origine de cette pression. Nous avons le devoir de refuser. Et je refuse absolument. Je ne fais pas d'exception.
Qu'est-ce qu'on doit penser de logiciels qui sont à moitié libres, à moitié propriétaires, comme Firefox, qui sont très répandus dans le monde libre et qui contiennent...
Le code de Firefox est libre. Ce n'est pas moitié-moitié. Le code de Firefox est libre.
Il est donné, il y a des distributions Linux qui ne l'installent pas.
Il n'y a pas de distribution Linux. Mais ils sont des distributions GNU et Linux. Prière de ne pas nous insulter.
Parce qu'il y a certaines distributions GNU Linux qui refusent d'installer Firefox parce qu'ils considèrent qu'il y a du code propriétaire dedans. C'est le cas de la Debian.
Non. Debian contenait une version modifiée de Firefox où ils changeaient uniquement le nom et le logo. Le code était le même. Ah, il y avait des petits changements pour que ça fonctionne dans le cadre de Debian. Mais le changement était principalement le nom, parce que selon les règles de Mozilla, si tu utilises le nom Firefox, ils imposent des limites. Mais Mozilla vient de changer cette politique. Ce n'est pas bien expliqué. Mais nous avons une version modifiée de Firefox, vraiment modifiée pour protéger mieux la vie privée de l'utilisateur.
Je vais parler de mon expérience professionnelle dans l'utilisation des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. J'utilise principalement un produit privatif, comme vous dites. J'ai cherché. Allô, je vais parler de mon utilisation professionnelle de système.
Vous utilisez principalement quoi ?
Un logiciel de gestion de bases de données relationnelles privatif que je ne vais pas nommer ici privateur pour ne pas faire de publicité. Donc, j'ai cherché d'autres produits qui pourraient remplacer dans le monde du libre. Et je ne trouve pas quelque chose qui me permette d'aller aussi vite et d'être aussi stable surtout.
Moi, je choisirais un programme moins rapide et moins stable pour avoir la liberté. Et c'est une question de priorité. Si tu donnes la priorité au but pratique sur les droits de l'humain, tu céderas les droits humains pour les autres buts. Voici la question la plus importante. La question des priorités.
Merci. Alors, ma question rejoint celle d'avant. Est-ce qu'on peut déroger et utiliser des logiciels ou services privateurs, par exemple, je pense à Periscope, pour pouvoir faire passer le message ?
Je ne connais pas Periscope, ni même de nom, mais je ne sais pas ce que ça voudrait dire un service privateur. Cette distinction de libre ou privateur s'applique aux œuvres. Si une œuvre est conçue pour faire des activités pratiques avec, cette œuvre doit être libre pour que l'utilisateur ait le contrôle de ses activités. Mais un service est autre chose. Les quatre libertés essentielles pour un programme ne s'appliquent pas à un service. La liberté d'étudier comment ça fonctionne et de le changer, mais tu ne peux pas étudier comment fonctionne le service de quelqu'un d'autre, tu ne peux rien voir. Peut-être c'est un ordinateur qui le fait, peut-être il y a des gens qui le font, tu ne peux pas savoir. Et la liberté d'en faire des copies exactes pour donner ou vendre aux autres, mais tu ne peux pas copier le service géré par quelqu'un d'autre. Tu n'en as pas une copie. Un service n'est pas comme une œuvre. Les deux posent des questions différentes. Donc, je n'ai aucune idée de que signifierait privateur ni libre quand il s'agit d'un service. Les services posent des questions éthiques, mais d'autres questions. Pas les mêmes questions qu'une œuvre pose. Un programme et une œuvre. Il existe en des copies. Pour utiliser le programme, tu dois avoir une copie. Donc, les quatre libertés essentielles se formulent de manière qui est appropriée aux œuvres, mais pas aux services. Mais ce qui est certain, tu ne peux pas avoir le contrôle d'un service géré par un autre. Donc, pour tes propres activités informatiques, il faut ne pas utiliser un service géré par les autres. Le remplacement d'un programme, même un programme théorique qui n'existe pas encore, par un service, est la perte de liberté. Il faut ne pas le faire.
Tout à l'heure, vous disiez que vous n'utilisez pas de téléphone. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'utilisez pas de téléphone mobile. Ok. Là, a priori, il y a des distributions GNU/Linux sur mobile. Est-ce qu'il y a des logiciels libres en cours de développement ou déjà présents pour les mobiles?
Il y a des systèmes libres pour le processeur d'application d'un téléphone, d'un smartphone. Mais un smartphone contient toujours deux processeurs, deux ordinateurs. Il y a le processeur application où tournent les systèmes d'exploitation. Et il y a le processeur de modem qui se communique avec le réseau de téléphonie. Et dans ce processeur-là, le logiciel est toujours privateur. Le fonctionnement est secret. Nous ne pouvons pas écrire du logiciel libre parce que nous ne savons pas utiliser ce processeur. Et maintenant, ces processeurs commencent à vérifier que le programme soit signé par le fabricant. Donc, ils refuseraient d'exécuter notre logiciel libre si nous en avions quelques logiciels libres. Donc, c'est impossible. Et la porte dérobée universelle se trouve dans ce processeur de communication de modem. Donc, impossible à éliminer. Dans presque tous les modèles de portables, le processeur de modem a le contrôle total sur l'autre processeur. Et donc, à travers la porte dérobée universelle, ils peuvent remplacer le logiciel libre. Si tu as installé un système d'exploitation libre dans le processeur d'application, ils peuvent le remplacer par un système privateur et malveillant.
Du coup, est-ce qu'il y a en développement justement des réseaux parallèles qui permettraient d'avoir des télécommunications libres?
Étant vu que le coût de créer un réseau de téléphonie, je ne vois pas comment ça serait possible. En tout cas, il serait illégal. Et donc, le seul cas que je connais est en Mexique, où des organisations trafiquantes très riches ont créé leur propre réseau de téléphonie mobile. Ils ont kidnappé des ingénieurs pour leur forcer à construire les réseaux. Mais nous savons qu'en Mexique, il n'y a pas tant de différence entre l'État et les trafiquants.
Ouais. Du coup, pour revenir à la question de la sécurité des données personnelles, en fait, on n'a pas abordé, ou j'ai raté, c'était au début peut-être, la question... D'accord, je vais parler plus lentement alors. Par rapport au moteur de recherche. Voilà. Pour ce qui est de la collecte de données et de données personnelles, je pense que c'est un des outils qui est aussi le plus... Bon. Ouais, comme ça, c'est bon. Donc, par rapport aux moteurs de recherche, voilà, qui sont une source de collecte, enfin, qui est un lieu de collecte, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la différence? Moi, par exemple, j'utilise Lilo. Brièvement, oui. D'accord. Donc, j'utilise, par exemple, un moteur de recherche qui s'appelle Lilo, qui... utilise a priori la même base de données que Google, mais qui redistribue l'argent des publicités en fait à des associations. Vous avez la possibilité de les distribuer vous-même. Il y a d'autres moteurs de recherche qui existent, par exemple comme Quant. J'aimerais savoir, par rapport à la politique des moteurs de recherche, lesquels ne collectent pas les données, en fait, même s'ils en ont besoin pour améliorer leurs services.
Moi, je refuse de livrer des données personnelles. quand j'utilise un moteur de recherche, je me communique avec le moteur à travers Tor. Donc, il ne sait pas où je suis, ni qui je suis. Et si je fais deux recherches, il ne sait pas que c'était moi deux fois.
Est-ce que vous avez des recommandations par rapport au vote en ligne, et notamment dans le cadre du mouvement?
Il faut ne pas le faire, c'est sot, complètement sot. Il faut voter en papier. Il faut garder les papiers, les bulletins de vote, pour pouvoir analyser de nouveau s'il y a un plein. Il faut pouvoir vérifier les quantités de vote. Dans un ordinateur, c'est impossible. Donc, il faut soupçonner n'importe quel ordinateur pour voter. Mais le vote en ligne, c'est même plus ça. C'est ridicule. L'Estonie utilise beaucoup le vote par Internet. Une équipe aux États-Unis a analysé la sécurité du serveur estonien et a conclu que pour l'ennemi de l'Estonie, ça veut dire la Russie, il serait très facile de rompre la sécurité et voler l'élection. C'est ridicule, voter par Internet. Et les raisons qu'ils offrent pour faire ça est absurde. Les jeunes ne votent pas assez. Pourquoi? Nous voyons aux États-Unis la solution, un candidat qui mérite d'être élu. Quand il y a un candidat qui mérite d'être élu, les jeunes votent. Le problème n'est pas que voter est trop difficile, sauf dans des lieux où les politiciens essaient de bloquer le vote. Les républicains aux États-Unis ont la stratégie d'empêcher les pauvres, les minorités de voter. Les pauvres, les étudiants, les jeunes, les vieux, tout qui pourrait vouloir voter, ne pas voter pour les républicains, leur stratégie est de les empêcher de voter. Mais hormis ça, voter est assez facile. Trouver un candidat qui peut vraiment gagner et mérite d'être élu, voici l'étape difficile.
Je voulais dire, sous les logiciels, il y a aussi du matériel, et même s'il y a du logiciel libre, en termes de matériel, il n'y en a quasiment jamais, et même si sur le matériel, il y a du logiciel libre qui est installé, il peut y avoir une fuite d'informations du côté du matériel. Et en ce moment, à la Commission européenne, je sais qu'il y a des lois qui visent à faire interdire le matériel libre, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, et qui est la seule manière de garantir une véritable... enfin, qu'il n'y ait pas de l'information qui passe pour le propriétaire.
Je ne connais pas de loi pour interdire le matériel libre, mais je n'applique pas l'expression libre au matériel, parce que cette distinction entre libre et privateur s'applique aux œuvres. Donc c'est la conception d'un produit physique qui peut être libre. Et j'ai publié un article sur ce sujet, gnu.org/philosophy/freehardwaredesigns.html.
Juste une question, pourquoi vous n'insistez pas sur un des aspects les plus importants des logiciels libres, qui est, c'est une démonstration pratique à l'échelle mondiale, qu'on peut produire des choses merveilleuses sans rechercher le profit et sans contrôle d'État. La pure production ou la production entre pairs, par exemple, qui est ce concept qui a été créé, permet aujourd'hui de faire des choses comme Wikipédia ou des millions de logiciels libres qui démontrent tous les jours, quotidiennement, qu'aujourd'hui, lorsqu'on cherche un projet de société, nous avons un germe de cette pratique. Et le germe de cette pratique, c'est le logiciel libre qui le donne, la logique des hackers, où on ne le produit pas pour le profit, mais pour le plaisir, et où ce qu'on produit, on le distribue gratuitement pour tout le monde. C'est ça le modèle de l'avenir, et c'est ça que je pense, les logiciels libres sont un germe de ça. Il faut le développer, il faut insister là-dessus.
Je ne suis pas complètement d'accord. Il y a des programmes libres produits par des volontaires, mais il y a aussi des programmes libres développés par des programmeurs payés, par des entreprises, ce qui est également légitime. Ce n'est pas une question de comment produire les programmes, mais de si ces programmes respectent la liberté et la communauté des utilisateurs. Donc, ce sont les gens d'open source qui mettent l'emphase sur la production des programmes. Pour moi, c'est une question secondaire. Moi, j'ai développé des programmes libres pour libérer le monde. Pas seulement pour le plaisir de programmer, pas seulement pour être apprécié comme programmeur, mais plutôt parce qu'il fallait un système qui respectait notre liberté. Et c'était à moi d'écrire des composants, donc je les ai écrits. Mais pour moi, la motivation de les écrire est une question secondaire. Que les programmes respectent notre liberté et notre communauté, voici ce qui distingue la justice de l'injustice. Donc c'est pour ça que nous n'excluons pas le gain comme motivation. Un programme libre doit être libre pour tout type d'utilisateurs, y compris pour les entreprises, et nous l'acceptons, qui que soient les développeurs, que ce soit des volontaires ou des entreprises, ou une combinaison des deux. J'ai écrit un compilateur qui s'appelle GCC, qui s'utilise depuis presque 30 ans. Mais maintenant, les développeurs principaux sont des employés des entreprises qui veulent appuyer ce programme, parce qu'ils utilisent ce programme et parce que leur négoce reçoit des bienfaits de l'existence de ce programme. Et j'en suis content.
Aaron Swartz, qui était un militant de l'Internet libre, disait, en parlant du web, que ce qui était important, ce n'était plus qui pouvait s'exprimer, mais qui sera entendu. Et donc ma question est celle-ci, comment faire résonner une lutte dans un web qui devient de plus en plus marchand et sécurisé?
Je ne vois pas de relation entre l'un et l'autre. Pour moi, la question est comment présenter ces questions éthiques pour que les gens comprennent. Et ce n'est pas facile, mais parfois nous avons des réussites. Donc pour moi, mais c'est vrai que les médias achetés cachent le logiciel libre et ne parlent que de open source. Mais ça ne change pas. C'était comme ça depuis peut-être 15 ans. Donc, les changements de détail dans les changements, peut-être le pouvoir de Facebook, ne changent pas beaucoup pour nous. L'FSF n'a pas de compte Facebook. parce que c'est trop injuste. Mais Twitter n'est pas la même chose que Facebook. La seule critique que j'ai de Twitter, c'est que maintenant, il paraît que Twitter refuse l'accès à travers Tor. Et fliquer les... où se trouve l'utilisateur, ça c'est dangereux. Surtout étant vu que suite à une manifestation aux États-Unis, l'État a exigé où se trouvaient les utilisateurs de Twitter.
Y a-t-il un lien entre logiciel libre et lutte contre le capitalisme?
Peut-être partiellement, mais le logiciel libre n'est pas anticapitaliste, ni moi, parce qu'il y a plusieurs formes de capitalisme. Capitalisme avec démocratie est une option, et la plutocratie est une autre. Aux États-Unis, il y a 40 ans, nous avions le capitalisme avec la démocratie. Et nous réussissions à imposer des lois que les entreprises n'aimaient pas. Beaucoup de lois importantes. Mais actuellement, nous vivons sous la plutocratie, qui est évidemment injuste. Donc, je suis contre la plutocratie. Je ne suis pas contre le capitalisme. En tout cas, le logiciel libre combine des idées capitalistes avec des idées socialistes et des idées anarchistes. C'est un mélange.
Comment interprétez-vous le comportement de certaines sociétés monstrueuses, par exemple Apple récemment, qui s'opposent publiquement avec leurs moyens aux États, notamment ici aux États-Unis, en disant défendre les données personnelles de ses utilisateurs, tout du moins en prenant ce prétexte?
Quand Apple défend la vie privée de l'enchiffrement de ses utilisateurs, je l'admirais si ce n'était pas l'exception à toute l'histoire d'Apple. C'est-à-dire, il est rare que quelqu'un fait seulement du mal, sans exception. Donc, s'il y a de temps en temps une exception, ça ne justifie pas le mal qu'il fait quotidiennement.
Ah. Vous disiez tout à l'heure que vous n'appliquez pas la notion de libre au matériel. Mais quelle est votre position, un vieux pionnier comme vous, vis-à-vis de la création de choses comme Arduino et l'incroyable succès du Raspberry qui permet à des utilisateurs simples de créer leur propre prototype quand même?
L'Arduino est fait d'une conception libre. Le produit physique, pour appliquer la distinction de libre ou privateur au produit même, ne marche pas bien. Mais le produit est fabriqué selon une conception, et cette conception est une œuvre dédiée à l'utilisation pratique. Donc, elle devrait être libre. Donc, je trouve que c'est plus clair de demander si la conception du produit est libre que de demander si le matériel même est libre. Les quatre libertés s'appliquent facilement à la conception d'un produit. Au produit même, pas vraiment. La liberté de faire des copies exactes pour les donner ou vendre aux autres, mais il n'y a pas de copieuse d'ordinateur. Même pour l'Arduino, il n'y a pas de copieuse capable de prendre un Arduino et sortir beaucoup de copies exactes. Mais la conception de l'Arduino, oui, on peut, c'est un fichier, on peut le copier et on peut le changer aussi. Mais je dois dire que le Raspberry Pi n'est pas, n'a pas de conception libre. Il contient des puces qui requièrent des programmes privateurs, même pour lancer en fonction. Il est impossible d'utiliser un Raspberry Pi sans logiciel privateur. Regardez fsf.org/resources/HW pour d'informations davantage.
Bonjour, j'ai travaillé dans un certain cadre d'un projet sur des Xeon Phi de Intel et on devait bonjour. Ok, oui, on bossait sur les Xeon Phi de Intel et on devait. C'est une plateforme de Intel et on. Xeon Phi, it's the name of the accelerator. C'est un accélérateur. Et on devait update le kernel Linux, mais Intel refusait de nous donner les patchs qu'ils avaient faits pour faire tourner le kernel Linux sur cette machine. Comment on fait pour protéger un logiciel libre contre des utilisateurs malveillants?
Il n'y a pas de solution automatique. Au moins, la GPL de GNU, la licence libre que j'ai écrite, interdit la distribution de versions de Linux modifié avec du code secret. Un autre point. Quand ils ont imposé la loi en France interdisant de se promener avec le visage couvert, la majorité le prenait pour une question importante uniquement pour quelque peu de femmes musulmanes, mais pour moi, ça touche les droits de l'humain à tout le monde, parce que pour se cacher des camarades de flicage, il faudra couvrir le visage. C'est une question importante pour tout le monde. Il faut ne pas être distrait par la question des 10 ou 20 femmes musulmanes.
Bonjour. Alors, je travaille dans l'éducation, dans l'informatique, justement. Comment séduire les utilisateurs au logiciel libre quand on a beaucoup de logiciels privateurs existants? C'est quoi le petit truc qui va donner en plus?
Je ne sais pas. Ce n'est pas mon champ. Je suis l'expert dans les arguments éthiques. Et il faut présenter ces arguments éthiques. Mais il faut donner le bon exemple. Si tu dis « ce programme est injuste, je suis désolé de l'utiliser », ça ne convainc personne. Mais quand tu présentes l'exemple de refuser de l'utiliser, par principe, ça démontre que pour toi, les principes valent quelque chose.
Que pensez-vous de l'arrivée des logiciels comme Watson? Les logiciels comme Watson, vous ne connaissez pas, ça va remplacer les médecins, par exemple. Non? Je pense que ça peut remplacer les médecins et par exemple étudier tout ce que vous pensez, tout ce que vous écrivez et en déterminer ce que vous allez acheter ou ce que vous allez faire de votre vie. IBM est sur le coup.
Watson ne peut rien savoir sur toi si tu ne donnes pas de données personnelles. Si tu achètes avec le liquide, Watson n'en saura rien. Quand tu navigues, si tu navigues à l'anonymat, si tu caches tout sauf ce que tu veux publier, si tu te communiques avec l'enchiffrement de GNU Privacy Guard avec tes amis, Watson n'en saura rien.
Bonjour. D'après vous, un logiciel qui a été produit par une administration et donc payé par la collectivité, devrait-il être fourni sous une licence contaminante comme GPL ou AGPL ou dans le domaine public? Copyleft.
Je ne vais pas répondre à cette insulte, mais je veux expliquer ce que c'est le gauche d'auteur. En anglais, copyleft. En français, le gauche d'auteur, c'est le même jeu de mots. Il y a plusieurs licences libres. Une licence libre octroie les quatre libertés essentielles à tout utilisateur muni d'une copie. Donc c'est la manière de rendre libre n'importe quelle œuvre et d'y mettre une licence libre. Uniquement les détenteurs du droit d'auteur de l'œuvre peuvent le faire légalement. Donc, quand un programme est libre, c'est parce qu'il porte quelques licences libres, mais il y a des différences entre les licences libres. Il y a des licences faibles qui disent plus ou moins « fais comme tu veux avec ce code ». Et il y a le gauche d'auteur qui dit « tu peux distribuer des copies avec ou sans changement ». Mais tu es obligé de transmettre les mêmes libertés aux autres utilisateurs avec leurs copies. Moi, je suis pour le gauche d'auteur en général, parce qu'il y a des exceptions pour des raisons stratégiques. Mais en général, il est meilleur de publier un programme sous licence de gauche d'auteur pour assurer que ce programme arrive à chaque utilisateur portant les mêmes libertés. Avec une licence faible, il y a le danger qu'une entreprise reçoive ce code et le convertisse en logiciel privateur. Et ça a lieu toujours, ce n'est pas une menace théorique. Ça a lieu, nous voyons que les entreprises le font. Pas toujours, mais elles le font. Et comme ça, l'un développe un programme libre et le publie sous une licence faible. Et ceux qui reçoivent sa version depuis lui ont les quatre libertés. Pour eux, c'est du logiciel libre. Mais quand quelqu'un le convertit en logiciel privateur et publie une version améliorer, modifier, qui n'est plus libre, il peut la distribuer à des millions d'utilisateurs qui ne sont pas libres. Ils utilisent le code que celui-ci a publié, mais ils ne reçoivent pas la liberté qu'il essayait de leur donner. Donc, quand c'était moi le développeur, j'ai inventé une manière, je veux dire le gauche d'auteur, d'assurer que les intermédiaires ne puissent pas enlever les libertés du code. Ils peuvent redistribuer le code, même avec des changements, mais les programmes qu'ils distribuent, qui contiennent quelque peu de mon code, doivent être dans leur totalité libres. Mais comme vous voyez, il y en a qui sont à l'encontre du gauche d'auteur et disent des insultes au sujet de la licence générale publique de GNU ou GNU GPL. Et il y a une campagne des entreprises pour amener la communauté libre loin du gauche d'auteur, pour augmenter l'opposition au gauche d'auteur. Des entreprises comme Apple, comme Google, agissent avec leur argent pour augmenter l'opposition au gauche d'auteur, pour que notre communauté ne sache plus se défendre des abus.
Bonjour, je voulais vous poser justement une question sur la gauche d'auteur par rapport aux documents qui sont de plus en plus publiés, qui ne sont pas du logiciel. D'accord. Je souhaite vous poser une question justement à propos de la gauche d'auteur, mais pas pour les logiciels, pour les documents qui sont de plus en plus numériques et de plus en plus présents sur Internet. Mais avec, avec les licences Creative Commons, l'association Creative Commons a été financée par les industriels de l'informatique américain et a fait en sorte de peu soutenir le copyleft. Ils ont fait malgré tout une licence copyleft, mais il me semble que dans la définition d'un logiciel libre, il y a l'idée de la possibilité d'étudier et d'avoir accès aux sources. Mais dans les documents, avec la licence Creative Commons copyleft, on n'a pas accès aux sources. Par exemple, un JPEG peut avoir une source, un fichier GIMP, ou un PDF peut avoir les sources d'un fichier ODT. Et actuellement, la licence Creative Commons copyleft ne défend pas l'accès aux sources du document qui sont très importantes pour l'étudier, pour savoir qu'est-ce qu'il y a un titre, qu'est-ce qu'il y a un paragraphe, qu'est-ce qu'il y a une citation, et le modifier. Et voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une nouvelle licence qui défende mieux le copyleft pour les documents ?
Je l'ai écrit déjà. C'est le GNU Free Documentation License. Quand c'est l'heure de terminer, je termine. Jusqu'à ce moment, je réponds aux questions. Mais pour les documents, c'est moins important que pour les programmes. C'est-à-dire que dans n'importe quelle forme du document, tu vois le texte. Mais un programme exécutable cache complètement ce qu'il fait. Dans un document, l'important est ce qu'il dit. Et ça, tu vois toujours. Donc, le problème de ne pas avoir la forme transparente n'est pas égal au problème dans un programme de ne pas avoir le code source. C'est incommode, mais au pire, il faudrait taper de nouveau le texte, ce qui est possible. Mais avec un programme, si tu n'as que le code exécutable, tu ne sais pas ce qu'il dit. On ne peut pas taper de nouveau le même texte, tu n'as pas de texte. C'est un secret complètement et il faut l'ingénierie inverse pour créer de nouveau du code source pour ce programme. Ça, c'est vraiment dur. Comparé à l'ingénierie inverse, taper de nouveau le même texte, ce n'est rien.
Moi, je voulais vous poser une question sur le réseau. Et tout à l'heure, on parlait justement que sur le mobile, à l'intérieur de la carte SIM, il y a un logiciel propriétaire, privateur. Et est-ce qu'on pourrait, justement, pour le réseau, un réseau alternatif, est-ce qu'on pourrait pas faire un réseau où tous les périphériques seraient connectés entre eux et de manière... Et juste...
Ce n'est pas mon champ.
Et justement, le problème, c'est que c'est aussi sur Internet, il y a des opérateurs, c'est centralisé, ce qui permet à l'État de...
C'est plus difficile qu'il ne paraît.
D'accord.
Stop.
Très rapide. Qu'est-ce que vous pensez de tous les clouds ?
Il n'y a pas de cloud. ça n'existe pas, c'est une confusion, c'est un malentendu des faits. Ce qui existe sont beaucoup d'ordinateurs dont chacun appartient à quelqu'un. Et ils offrent de faire quelque informatique pour toi. Mais comment le faire, ça varie. Donc, il faut juger chaque cas selon ses détails. Le mot cloud s'utilise pour faire oublier aux gens de vérifier ce qu'ils leur proposent vraiment de faire et où et sous le contrôle de qui, dans quel pays, sous quelle loi. Tous les détails qui déterminent si c'est sage ou sot. Donc, il faut rejeter le mot cloud dans l'informatique. There is no cloud, only other people's computers.
Très rapidement, j'aimerais savoir quelles sont les étapes d'après, en fait, sur quoi on va travailler bientôt sur le logiciel libre. Quels sont les grands enjeux à venir prochainement?
Nous ne sommes pas aussi centralisés pour avoir des réponses à ça. Il y a beaucoup de projets de logiciels libres qu'il faut faire. Et les développeurs, quelques-uns nous font attention et les autres non. Mais évidemment, les grands problèmes sont au niveau du matériel dont le mode d'emploi est secret. Il faut donc l'ingénierie inverse pour déterminer le mode d'emploi du matériel pour pouvoir faire des programmes libres pour fonctionner sur ce matériel. J'ai terminé. Pour vous adhérer à la Free Software Foundation, visitez fsf.org. Nous avons besoin de plus de membres. Moi, je suis volontaire de temps complet, plus que temps que complet. L'FSF ne me paye pas, l'FSF ne paye pas mes voyages parce que je veux donner l'exemple d'être volontaire. Mais l'FSF a une équipe payée. Maintenant, je crois 13 employés en principe. Donc, l'FSF a besoin de l'argent et vous pouvez contribuer de l'argent, mais aussi vous pouvez contribuer votre travail. Regardez gnu.org/help pour une liste de manières de nous aider. Vous trouverez beaucoup de manières et pas seulement la programmation. Nous avons aussi besoin d'organisateurs, d'activistes, de conférenciers